Audrey va vous parler de Vatican II, dont les tableaux chronologiques sont maintenant collés dans cette salle. Merci.
Donc, je vous ai mis au tableau ce que sera un peu le déroulement de mon exposé. Hein. D'abord, la Constitution elle-même, l'histoire de la Constitution, l'arrivée jusqu'au contenu, et finalement, dans un dernier moment, qui sera plus court, mais la mise en œuvre et finalement le problème qu'a posé la réception de Vatican, de Sacrosanctum Concilium. Donc c'est le 4 décembre 1963, donc un an et demi après l'ouverture du concile, à l'occasion du quatrième centenaire de la clôture du concile de Trente, que eh bien, Paul VI a promulgué la constitution Sacrosanctum Concilium. Et juste avant la proclamation, il est bon de l'avoir en tête, il y a eu un vote final, dans l'ensemble des pères conciliaires. Et alors, sur 2151 pères conciliaires présents, il y a eu 2147 voix pour et seulement 4 voix contre. Donc, à ce moment-là, on peut dire, eh bien, l'ensemble des évêques approuvait ce texte et qui, par ailleurs, eh bien, a eu une histoire. Ça, c'est le premier point. Le deuxième, ben, c'est que c'est le premier des textes du Concile à avoir été promulgué. Et cet événement-là a sûrement eu une influence durable, profonde, comme on va le voir, sur la suite des travaux du Concile. Il faut se dire en même temps, on pense à réception en quelques instants, eh bien c'est aussi le texte qui a eu, dont on a senti le plus immédiatement l'impact sur eh bien, tous les chrétiens, quoi. Puisqu'au fond, ça touchait donc la liturgie. Et la liturgie est un domaine où, qu'on s'en défende ou non, c'est un domaine où on est tous émotionnellement engagés. On n'est jamais indifférent par rapport au geste par lequel précisément on exprime dans notre liturgie notre relation à Dieu. Donc, il était normal que ça suscite des réactions. Alors donc, je peux d'abord parler, donc, comme je vous disais, d'abord des antécédents. Ensuite, en arrivée, l'élaboration du schéma lui-même, les débats dans l'aula. L'aula, quand je dis l'aula, c'est donc la basilique Saint-Pierre elle-même. Et finalement, d'en arriver donc à son contenu et à son influence. Antécédent, il est bon de se dire que, eh bien, le document, d'abord, disons ceci, le document sur la liturgie a été le premier à avoir été soumis dès l'ouverture du concile aux pères conciliaires. Donc, il y avait déjà eu des consultations préalables parmi les évêques, les sujets que l'on voulait avoir traités à ce concile, et il y avait eu une bonne proportion qui avait tout de même dit que la liturgie devait être à l'agenda donc, du concile lui-même. Donc, il y a un souhait. Mais, de fait, il y a aussi une raison pratique, c'est qu'il y a eu 7 ou 8 documents qui ont été présentés au père à l'ouverture du concile, mais c'était encore celui sur la liturgie qui était le plus fin prêt, arrivé à maturité, peut-on dire, pour être soumis à la discussion ensemble. Et pourquoi? C'est que, des faits, les questions liturgiques avaient déjà fait leur chemin, tout particulièrement eh bien, dans les 150 années qui ont précédé le Concile. Il y a eu des travaux d'érudition de la part de beaucoup de moines, tout ça sur l'histoire, la liturgie, ensuite et bien sûr la liturgie orientale. Mais j'affirme ici que, parce qu'il faut être bref, que évoquer, autrement dit, deux noms hein, qui ont eu une influence dans les 150 années qui ont précédé le concile. Et le premier, c'est donc Prosper Guéranger, hein, de l'abbaye de Solesmes, hein, 1895 à 1875, donc, qui avait remis en valeur, hein, le chant liturgique grégorien, qui de fait était plus ou moins tombé en désuétude dans les siècles qui étaient précédents. Donc, on voit bien, il y a un premier effort qui est fait donc au niveau de la liturgie et du chant liturgique. Un autre nom important aussi à retenir, qui est plus près de nous, c'est donc Lambert Baudouin, hein, qui est mort en 1960, de l'abbaye donc, du Mont-César à Louvain, hein, et qui, de concert avec le cardinal Mercier, hein, a travaillé à la diffusion d'abord d'un missel bilingue, latin-français, et ensuite, eh bien, qui était au point de départ d'une revue, l'année liturgique, qui a, à un moment donné, attiré jusqu'à 70 000 exemplaires, et alors qui a inauguré ce qu'on appelait donc des semaines liturgiques. Autrement dit, on voit bien, il y avait un côté pastoral, un côté catéchétique, et la liturgie aussi pouvait être source de vie, hein. Et donc, cela apparaissait de plus en plus. Voilà pour ce volet-là. L'autre, eh bien, c'est au niveau des papes eux-mêmes. On est porté à croire que la liturgie est quelque chose d'imbuable, hein. Or, déjà au niveau de Pie X, par exemple, Pie X, eh bien, avait écrit donc une lettre où il incitait à la participation active au Saint-Mystère. Je me disais, retenons ce mot participation active, parce qu'il va revenir, hein, il sera un des mots clés, hein, maître mot, si on peut dire, dans la Constitution. Et alors, en même temps, il incitait à la communion fréquente, et alors, eh bien, à la communion des enfants. Donc, on voit bien, il y a un moment, même au niveau de la liturgie, au niveau de la pratique, qui se marque avec Pie X. Maintenant, sous le pontificat, déjà, depuis 12, hein, vous vous rappelez, enfin, ceux de ma génération au moins, comment Pie XII a réformé, hein, la vigile pascale et finalement, eh bien, les trois jours du Triduum pascal en 51 et en 55. Hein. En même temps, déjà, lui-même avait favorisé la composition de rituels qui accordaient une plus grande, une plus large place, on peut dire, à la langue vernaculaire, hein, dans l'administration des sacrements, ou au moins des sacramentaux. Et alors, il avait même accordé un certain nombre d'indultes, hein, pour qu'on puisse célébrer la liturgie, hein, en certains endroits, dans la langue vernaculaire. Il est bon de retenir ceci, parce que c'est autant d'éléments qu'on pourrait dire, ceux qui vont vouloir réformer la liturgie, ce à quoi ils vont en appeler, hein. Même de façon un peu... les conservateurs diront, vous allez un peu loin. Oui, non, Pie XII n'a tout de même pas été jusque-là. Mais enfin, voilà, c'est un point d'appui. Autre chose aussi, déjà du point de vue de la théologie, hein, il y avait eu l'encyclique Mystici Corporis Christi en 1943, qui était suivie par une encyclique sur la liturgie, précisément, Mediator Dei et Hominum, où là, de fait, eh bien... Pie XII, hein, fondait sur le mystère pascal lui-même, en lien avec des travaux d'un moine, de l'abbaye de Marialac, hein, au Docasel, hein, une nouvelle théologie, peut-on dire déjà, sur la liturgie. Donc, on voit, c'est ça qui est important, il y a donc un arrière-fond, hein, même si, de fait, apparemment, peu de choses bougeaient. Alors, 20, voilà, c'est l'élément suivant, la phase préparatoire. Hein, hein. Alors, bien entendu, donc, nous sommes en 59, mai 59, et voilà qu'on, hein, constitue la commission, hein, liturgique préparatoire, avec 12 sous-commissions, hein, et alors qui va travailler pendant une période, je dirais, de 2 ans. Hein. À ce moment-là. Et alors, sur chaque commission avait un thème, ce sont des thèmes qui seront repris dans le document lui-même, qu'on va le voir tout à l'heure, et qui touchait aussi bien le calendrier liturgique, la messe, les sacrements, le bréviaire, hein, l'usage de la langue vernaculaire. Ce n'était pas une affaire acquise dès le point de départ, à l'ouverture du concile. Hein. Et encore, alors, l'adaptation au génie des peuples. Donc, au point de départ, donc, disons ceci, tout le monde s'entendait sur la nécessité d'une réforme pastorale, sérieuse et bien fondée de la liturgie. Voilà. Maintenant, les discussions théologiques sont vite survenues. Hein, deux qui, apparemment, ne nous concernent pas hein, immédiatement. Eh bien, l'une est davantage à dimension théologique, c'est de savoir maintenant, est-ce que la liturgie repose sur l'incarnation ou sur le mystère pascal? On voit bien, est-ce que c'est à comprendre d'un point de vue, on pourrait dire, ontologique, essentialiste, ou est-ce que c'est à comprendre en termes d'histoire du Seigneur? Et il y en a une autre aussi, peut-être, bon, qui peut nous paraître théorique, mais qui est de même intéressant, c'était la participation des fidèles, parce qu'on va parler de la participation active des fidèles. Est-ce que celle-ci repose sur le sacerdoce commun des fidèles, qui était une notion, on pourrait dire, hein, nouvelle, qu'on commençait donc à apprivoiser, ou alors est-ce qu'elle relève tout simplement de la nature ecclésiale, donc de la liturgie? Voilà. Autre grande question qui est revenue très très vite, hein, c'est celle, autrement dit, eh bien, de l'importance à accorder aux autorités territoriales en matière d'adaptation liturgique. Point extrêmement sensible. Hein. Autrement dit, parce qu'on n'a pas encore les conférences épiscopales encore, hein, mais enfin, pour l'adaptation au génie des peuples, autrement dit, la responsabilité des évêques, est-ce que ne se réduit pas tout simplement à la capacité de faire des propositions au Saint-Siège? Vous voyez la congrégation des rites derrière cela, hein, tout le pôle, on peut dire, le centre, par rapport eh bien, à ce qu'il présente comme la périphérie. Alors, l'autre grande question qui va revenir ensuite, on voit bien, sensible, pour nous, elle nous paraît dépassée, elle ne l'est pas tout à fait de fait, c'est celle eh bien, de l'usage de la langue vernaculaire. Et la question était si sensible que le cardinal Cegoniani, qui était président de la commission, hein, à ce moment-là, avait décidé hein, de cette question-là ne pouvait être mise à l'ordre du jour du concile. Et il a fallu en appeler à Jean XXIII hein, pour laisser à la commission elle-même la liberté de choisir les thèmes qu'elle voulait. Donc, voilà un travail qui s'est fait, donc, et qui consistait, et sur laquelle travaillait donc la commission préparatoire. Alors, arrivait ceci, voilà, deux ans qu'on travaille, hein, c'est pour vous montrer que derrière cela, il va y avoir des enjeux. Hein. Voilà, deux ans qu'on travaille, on arrive tout d'un coup à la mi-mars, hein, à avoir un document relativement bien ficelé, et qu'on soumet, parce que vous voyez bien, si on allait nous parler, il pouvait y avoir la commission hein, liturgique, mais il y avait aussi la commission centrale préparatoire, où il y avait entre autres le cardinal Ottaviani, hein, qui était davantage d'ordre doctrinal, hein, et qui devait donner son platch, hein, son feu vert pour qu'un document puisse passer, si on peut dire, à la discussion des pairs. Alors donc, voilà, cette commission, là, dans cette réunion de cette commission, eh bien, on s'est départagé à ce moment-là entre deux extrêmes. Hein, ceux qu'on peut appeler, pour bien l'avouer, conservateurs, et ceux qu'il faut appeler, donc, progressistes. Hein. Autrement dit, les premiers hein, réclamaient le rejet pur et simple du projet. Et les autres le trouvaient excellent. Au cours de cette discussion, hein, bon, la tendance conservatrice s'est trouvée mise en minorité, mais finalement, voilà, hein, on en est arrivé à dire que le texte, bon, devait être tenu, mais en même temps, eh bien, soumis hein, que ces amendements, on pouvait envoyer ces amendements à une commission spéciale désignée pour cela, hein, et c'est elle finalement, eh bien, qui présenterait, régirait le texte hein, qui serait soumis donc aux évêques. Alors, quelle ne fut pas hein, au retour de l'été, hein, eh bien, la surprise de ceux qui avaient travaillé, qui avaient aidé à enfanter ce texte, de découvrir hein, que, eh bien, ce qui était pour être présenté au père conciliaire hein, avait été profondément, peut-on dire, dénaturé hein, sur plusieurs points essentiels. Hein, hein. On avait mis comme intitulé, hein, c'est bon, « Le but de cette constitution est le suivant. » Voilà. Ne proposer que des normes générales et des principes supérieurs concernant la restauration liturgique, hein, réservant au Saint-Siège, voilà, hein, hein, l'exécution pratique des affaires particulières. On pouvait faire des recommandations, mais tout était remis finalement au Saint-Siège et à la congrégation des rites. Hein. Autrement dit, dans ce texte-là, tout ce qui touchait la dimension qu'on peut dire décentralisatrice, hein, responsabilité des évêques, se trouvait supprimé. Hein. Le recours à une autre langue que le latin était vraiment réduit à la portion congrue. Des éléments comme la concélébration qui avait été discutée, ou encore eh bien, la communion sur les deux espèces, hein, étaient ramenés à deux exceptions. Hein. Bon, c'était pour le jeudi saint. Presque à rien. Hein? Et donc, le recours à la langue vernaculaire se trouvait pratiquement donc supprimé. Alors donc, se trouvant cela, hein, les rédacteurs du schéma hein, ne trouvèrent pas mieux, autrement dit, que de présenter sur deux colonnes leur texte et celui qui venait donc de la congrégation des rites et donc du cardinal Ottaviani, hein, sur deux colonnes, et donc de les présenter comme telles, donc, eh bien, à la décision, peut-on dire, des pairs, hein, comme base de discussion. Et ce qui s'est passé, c'est que, de fait, c'est le texte hein, de la commission qui était accepté par les pairs et l'autre mis de côté. Donc, vous voyez déjà, hein, au moment de la mise en œuvre, la préparation, eh bien, il y avait des tensions. Et s'il y a des tensions, c'est que probablement il y avait des enjeux profonds derrière ce texte. Hein, hein. Ce n'était pas uniquement théorique. Hein. Il y avait des déplacements. Hein, hein. On passait d'une manière de penser à une autre. Hein, hein. Et cette nouvelle manière de penser était insaisissable, peut-on dire, hein, par ceux qui, jusqu'à maintenant, s'étaient portés les garants, hein, on va dire, des rites, quoi, hein, et de la liturgie. Donc, voilà la première étape. Vient alors les débats conciliaires. Alors, la semaine dernière, alors, Sœur Noël a évoqué enfin, la procédure hein, au concile. Il y avait d'une part eh bien, les assemblées générales qui se faisaient dans la basilique Saint-Pierre, hein, où les textes étaient présentés point par point, chacun pouvant dire s'il était d'accord, désaccord, ou encore, eh bien, proposer des amendements. Il faut bien l'avouer que c'est le premier des textes, ils étaient à 2100, ils n'avaient pas encore beaucoup d'expérience, c'était une machinerie extrêmement lourde à faire marcher. Hein. Alors, il y avait cela, et par ailleurs, il y avait le travail en commission, hein, entre les réunions en assemblée plénière, où là, eh bien, on colligeait les amendements, on corrigeait les textes, on les représentait de nouveau, voilà. Donc, autrement dit, ce texte a été soumis, donc, à la première session du concile, il a occupé 15 séances générales. La dernière partie du texte sera reportée, si on peut dire, à la deuxième session du concile. Bon, il y a eu débat. Je ne voudrais retenir qu'un seul point, parce que les autres vont revenir d'une façon ou d'une autre. C'est celui, eh bien, qui touche à la langue latine, et qui demeure encore, malgré tout, une question vive dans l'Église. Après 3 semaines, on a cru-t-on qu'il fallait arrêter, parce que finalement, on en arrivait qu'à se répéter d'une façon ou d'une autre, pour ou contre le latin. Il faut bien voir que les arguments qui étaient apportés par ceux qui proposaient qu'on garde le latin, bon, c'était l'unité de l'Église et de la foi. Le danger aussi de modifier le dogme en modifiant la liturgie. Ce sont tous des arguments, malgré tout, qui ne sont pas bêtes, hein, parce que la langue est tout de même une chose importante, hein, faut bien se le dire. Hein. Et que passer à une autre langue, des fois, eh bien, les mots, les concepts n'ont plus la même portée qu'ils avaient. Il y a aussi l'élément de la rupture avec la tradition. Bon, il y a ce fait aussi, hein, il y avait même un texte de Jean 23, Sapientia, je pense, de Stiana, et qui vantait, si on peut dire, le latin juste à l'ouverture du concile, hein, comme étant la langue de toutes les facultés de théologie, l'école de théologie, donc on devait donc, faire en enseignant le latin. Donc, la supériorité de la langue latine pour l'enseignement de l'Église. Alors, autre point aussi, hein, la nécessité de garder le sens du sacré dans la liturgie. Alors, il s'ajoutait aussi, c'est bon de le retenir, parce que la plupart des Nord-Américains, des Américains, étaient pour qu'on garde le latin, pour la simple raison, la grande peur qu'en passant en anglais, eh bien, on sera assimilé aux liturgies du culte protestant, quoi. Ça marquait notre spécificité par rapport au protestantisme. Tous ces éléments étaient là, donc. Alors, bien entendu, en même temps, il y avait tous ceux qui étaient pour l'autre position, et là, on avait à peu près la palette de toutes les positions possibles, hein, depuis, je dirais, une espèce de via media, en mettre un petit peu, pas trop, hein, à ceux qui disaient qu'il fallait laisser tomber, tout simplement, le latin. Alors, on invoquait, c'est bon de retenir, les raisons pastorales et l'aspect catéchétique de la liturgie. Ce sont des choses, vous avez déjà entendu, hein, mais je les rappelle comme cela. Alors, l'autre aspect, parce qu'il va l'emporter aussi, parce qu'à un moment donné, le concile sera prudent, mais très vite, ça va basculer, hein, vers les langues vernaculaires, hein, c'est la participation active des fidèles, donc, à l'offrande du Christ. Et enfin aussi, l'obstacle que représentait, hein, le recours au latin pour la vie de prière du clergé. Parce qu'au fond, le bréviaire devait être lu en latin. Alors, il y a eu des interventions vraiment musclées. Entre autres, une, on l'évoque souvent, enfin, de Maximus IV, je crois, qui était le patriarche de l'église melkite, hein, et qui a fait valoir que de fait, on peut être catholique sans avoir à d'ailleurs faire son intervention en français, hein, plutôt qu'en latin, puisque tout se faisait en latin au concile, hein, pour dire autrement dit que la foi, l'unité de la foi, elle reposait sur autre chose que la langue. Donc, et il a créé une impression profonde à ce moment-là. Et alors, il y a eu aussi des évêques, hein, entre autres du Japon, d'Indonésie, pour le pays de mission, le latin était une langue incompréhensible. Donc, voilà pour cela. Hein. Et alors, juste pour vous dire, enfin, que c'était tout de même, j'en parle de façon assez ironique, ça n'était moins que cela. Hein. Eh bien, il y a un moment, par exemple, voilà, le cardinal Ottaviani s'est senti, eh bien, parce qu'on lui avait coupé la parole, fâché, il a boudé, hein, toutes ses réunions, et pendant deux semaines, hein, de l'Assemblée générale, jusqu'à ce qu'on arrive au vote final. Voilà. Hein. Donc, c'était... Alors, finalement, non, c'est pour dire, on est arrivé, après 33 heures de congrégation générale, de l'Aula, à procéder donc au vote pour l'approbation du schéma, au moins dans ses grandes lignes. C'était le premier vote, hein, de cet ordre au Concile. Hein. Il avait, de ce point de vue-là, on pourrait dire, valeur de test, hein, sur les dispositions d'esprit, hein, des pères conciliaires. Et en un sens, eh bien, au moment du vote, chacun retenait son souffle. Or, le résultat a été le suivant, à ce moment-là, 1476 votes pour, 46 contre et 7 vols nuls. Mais dans la marge du concile, ce vote a eu un caractère de révélation. Personne ne s'attendait, après toutes ces discussions sur tous ces points, à ce qu'on en arrive à un tel succès. Et même ceux qui, au point de départ, voyez-vous, avaient demandé que le rejet pur et simple de ce document ne représentait, dans son vote final, que 2% des votants. Autrement dit, il y avait une quasi-unanimité qui, alors, à ce moment-là, eh bien, s'imposait sur, eh bien, la Constitution elle-même, les principes de réforme fondamentaux qu'elle proposait. Et alors, de ce point de vue-là, de la part du Concile, c'était ça, comme l'expression, autrement dit, d'un assentiment de fond à ce qu'avait été le désir de Jean XXIII de ce que ce Concile soit un Concile d'aggiornamento. Voilà un peu pour l'histoire, comme vous voulez. J'en arrive maintenant, eh bien, au texte lui-même. Là, vous avez une feuille, des feuilles qui vous ont été passées. Et alors, donc, les trois premières vous donnent le plan général de la Constitution, donc, Sacrosanctum Concilio. Alors, comme vous le regardez, si vous feuilletez, le texte comporte 7 chapitres. Le premier est important parce qu'il donne les principes généraux pour la restauration et le progrès. C'est ad instaurandam et fovendam, on traduit donc restauration et progrès de la liturgie. Et alors, il est suivi de 6 chapitres qui reprennent autant d'éléments qui étaient là, qui avaient été étudiés donc en sous-commission, entre autres, la Sainte Messe, les sacrements, comme vous pouvez le voir, l'office divin, la nuit liturgique, et alors la musique sacrée et l'art sacré. Non, qui couvre l'ensemble, peut-on dire, du domaine de la liturgie. Alors, le premier chapitre commence par ceci, la nature de la liturgie et son importance dans la vie de l'Église. On pourrait dire que c'est le chapitre sur lequel se fonde la théologie de la Constitution elle-même. On verra ensuite le deuxième chapitre, voyez-vous là, vous avez « Recherche de la formation liturgique et de la participation active ». Voilà, ça c'est le deuxième élément qui va intervenir. Et à partir de là, vous avez à partir, donc, les normes. Autrement dit, on pourrait dire, il y a d'abord le fondement, la manière dont on perçoit le sens de la liturgie dans l'Église. Et alors, on pourrait dire, la tâche que le Concile s'impose, c'est de finalement, ce qu'on appelle, la participation active des fidèles. Alors, qu'est-ce qu'il en est, donc, de ce fondement? Donc, voilà. Au point de départ, ça revient à dire ceci, c'est de montrer la place que tient la liturgie dans la vie chrétienne. Non pas comme une activité plus ou moins une pratique, mais que finalement, elle touche le cœur même de ce qu'est la vie du chrétien. Et donc, elle part, on voit, de l'œuvre accomplie par le Christ. On a vu qu'il y avait discussion, est-ce que ça vient de l'incarnation, ou encore du mystère pascal. Eh bien, l'œuvre accomplie par le Christ, nous a-t-il dit, elle est principalement dans le mystère pascal de sa mort et de sa résurrection, et de sa glorieuse résurrection, par laquelle il a détruit notre mort, et en ressuscitant, eh bien, il nous a ouvert à la vie. Donc, on voit, c'est le mystère pascal lui-même qui est au cœur de la liturgie. Et ce paragraphe initial se termine par cette belle phrase, c'est du côté du Christ endormi sur la croix qu'est né l'admirable sacrement de l'Église tout entière. Donc, l'Église, elle est dès le point de départ vue comme sacrement, non pas seulement comme une institution qui dispense des sacrements, mais elle-même comme sacrement, donc, et qui vient précisément du côté du Christ, donc du mystère pascal. Vous le voyez, bon, je ne relève que deux traits. Hein. Le premier, penser mystère pascal, c'est penser non seulement la croix, mais c'est penser la résurrection. On voit bien que le Concile Trente, en appuyant presque exclusivement sur la dimension sacrificielle de la messe en lien avec la croix, manquait d'ampleur pour saisir cela dans son rapport avec la résurrection elle-même. Donc, deuxième point, voyez-vous, toute la théologie du Concile de Trente nous parlait des mérites du Christ, des mérites de la croix. Hein. C'est en allant, en participant à la messe, eh bien, nous recevions les mérites de la croix. Il y avait tout de même, il était là, et nous étions donc extérieurs. Hein. Or là, ce texte, et toute la suite sera là pour montrer que finalement, nous sommes, parce que c'est cela, si l'Église naît comme sacrement du côté du Christ, eh bien, sacramentellement, nous sommes nous-mêmes unis à l'œuvre du Christ, au geste du Christ, à sa mort comme à sa résurrection. Et ça vaut pour chacun des sacrements, donc en particulier. C'est vrai pour l'Eucharistie, c'est vrai pour le baptême, autrement dit au baptême, eh bien voilà. Hein, il y a celui qui baptise, mais le fait, c'est le Christ qui baptise. Ou encore, eh bien, ce qui va revenir aussi pour l'Écriture. Hein, ce n'est pas seulement des homilies, des serments, des sermons. Lorsque l'Écriture est proclamée, nous est-il dit, c'est lui, le Christ, qui parle, hein, chaque fois qu'on lit l'Écriture dans l'Église. Donc, autrement dit, la célébration liturgique, c'est ça qui est au point de départ de la Constitution, elle est l'œuvre, à la fois l'œuvre du Christ prêtre et celle de son corps qui est l'Église. Et là, voilà, je cite le Concile lui-même, elle est l'action sacrée par excellence, dont nulle autre action ne peut atteindre l'efficacité au même titre et au même degré. On rejoint ici, par nos propres mots, à partir de la tradition, on peut dire, occidentale, eh bien, une intuition qui est au cœur aussi de la liturgie orientale. Quoi. La liturgie est le lieu de la catéchèse. La liturgie est le lieu de la vie. Il est évident que, comme le dira le texte, la liturgie n'épuise pas à elle seule toute l'activité de l'Église. Donc, elle n'en reste pas moins le sommet vers lequel tend toute l'action de l'Église et en même temps la source de l'école d'où découle toute sa vérité. Voilà le point de départ. Et je vous lis ici tout de même, parce que ce sont des pensées, ce sont des idées qui sont très chères aussi au cardinal, à celui qui est à ce moment-là, le cardinal Ratzinger, dans un commentaire qu'il faisait à la fin donc de la première session du Concile. Il disait, voilà, ainsi se trouve confessé que le centre véritable de l'Église, ce sont, comme dit, ces noces toujours nouvelles qui s'accomplissent dans le mystère eucharistique. Hein? En se détournant d'une approche rubriciste, ce qui était le cas, malgré tout juridique, hein? Celle enfin gérée, des choses comme la congrégation des rites voulait le faire, en se situant à cette profondeur portant une doctrine de l'Église exempte de rétrécissement, eh bien, elle ouvrait des perspectives qu'avaient manqué les siècles précédents. On s'orientait vers une vision de l'Église qui retournait à son origine. Voilà, c'est des propos donc que tenait à ce moment-là le cardinal Ratzinger. Et on voit, on sent le déplacement qui s'opérait, et on peut comprendre qu'il ait inquiété un certain nombre d'instances, hein, au moins dans des postes à la curie. Hein. Autrement dit, on se détachait, ce qui n'est il y aura toujours un côté juridique à l'Église, il y aura toujours un côté constitutionnel, il restera toujours encore constitué. Mais on se détachait d'une vision, pour dire, juridique, hein, où les choses peuvent être certifiées et contrôlées, hein, à un autre ordre, hein, qui est un ordre de personne d'abord et avant tout. Hein. Et donc, c'est là un des gros déplacements, hein, qu'opérait, et qui n'était pas évident au début du Concile, hein, qui se trouvait opéré dans cette Constitution. Alors, vient alors là-dedans, là-dessus, après ce point-là, ce que j'ai relevé, tout même, la conscience, donc, une participation consciente, active et fructueuse des fidèles à la liturgie. On voit bien que derrière cela, hein, peut-être, bon, certains d'entre vous s'en rappellent, il y a tout de même, eh bien, l'image d'un peuple chrétien spectateur, hein, dans la liturgie, hein, et qui était là, puisque ça se disait en latin, le prêtre tourné, et alors en se mendiant son chapelet, ou encore, eh bien, en faisant ses dévotions. Hein. Et donc, c'était de rendre, comment dit, que la liturgie soit elle-même, chacun selon son ordre, mais enfin, comme il est dit ici, au plan pastoral, hein, que les fidèles y soient rendus participants. Et dans le texte ici, j'ai contrôlé, là, à 13 reprises, hein, on a, eh bien, cette même expression de participation consciente, active, donc, à la liturgie. Alors, en même temps, on fait remarquer que cette participation active, hein, elle est un droit de chacun en vertu de son baptême. Et alors, eh bien, qu'elle devrait de fait être un principe pour revoir, eh bien, chacun des rituels, donc, comme on va le voir par la suite. Alors, retenons ceci, et parce que je passe ensuite à l'influence du Concile, retenons enfin ce grand point que je disais, l'importance de la liturgie. Retenons enfin que nous sommes au début du Concile et que du coup, sans s'en rendre compte, eh bien, les décisions qui sont prises là vont avoir une grande influence sur la marche du Concile. Autrement dit, jusqu'à un certain point, comme on le dit parfois, la loi de la prière, eh bien, est là au fondement de la loi de la foi. Ce qui est affirmé au niveau de la loi de la prière, ici, le lieu, hein, disait, éclairait quelque chose sur un certain nombre, autrement dit, de ce que sont les débats par la suite du Concile. Entre autres, bah bien, on a parlé de la responsabilité des évêques, hein, qui finalement est passée dans le texte final, malgré toute l'objection qu'elle a rencontrée. Bah, elle préparait déjà ce qui, par la suite, dans le Lumen Gentium, on va appeler là, la collégialité épiscopale. Cette participation active des fidèles dont on parle ici, on n'a pas encore le terme, elle prépare de fait, eh bien, le concept de peuple de Dieu qui aussi interviendra dans l'Humen Gentium. Hein. Et alors, je n'ai pas parlé, hein, j'aurais dû le faire parce qu'on voit bien l'importance qu'a, dans le texte lui-même, l'importance qu'a la parole de Dieu, la prédication, l'écriture, hein, que l'homélie lui-même elle-même doit être en rapport avec l'Écriture. Eh bien, déjà, on préparait eh bien, ce qui, par la suite, va mener aux discussions qui vont conduire à Dei Verbum. Donc, nous sommes au début du Concile, et pourtant, on voit que ce n'est pas un texte, ce n'est pas un événement qui n'était pas sans rapport avec le Concile. Et voilà, donc, de ce point de vue-là, je voudrais dire un petit mot ici sur, malgré tout, l'influence de ce texte, parce qu'il faut bien avancer, hein, dans le Concile. Le premier point, hein, je crois que eh bien, c'est un événement que malgré toutes les dissensions, et de fait, en parenthèse, Mgr Lefebvre lui-même a voté ce texte. Hein, donc, pour dire, hein, eh bien, d'abord le document lui-même a finalement exprimé quelque chose de l'expérience que faisaient les pères du Concile. La semaine dernière, Sœur Noël a dit comment commençait toute session générale dans l'aula par une messe célébrée dans différents rites. Et alors, eh bien, l'intronisation, donc, du lectionnaire, et alors, qui fait que, dans le sens, c'était le Christ qui était là et qui trônait et qui présidait, donc, les débats. Donc, autrement dit, la Constitution elle-même est venue, peut-on dire, donner son sens à ce qu'on a voulu mettre au point de départ, eh bien, de toutes les débats, partir de la liturgie. Et alors, il y a Monseigneur Dossetti plutôt, qui était très actif dans les deux dernières séances du Concile, et qui faisait remarquer que pour lui, parce que des fois on cherche quel est le fil rouge, ou quel fil blanc, ou quel est le principe herméneutique de Vatican II, ben, il voyait le principe herméneutique, le principe d'interprétation, parce que la variété des documents, eh bien, il le voyait précisément dans la Constitution Sacrosanctum Concilium, telle que de fait, elle avait elle-même consacré ce qui était aussi une démarche du Concile. Premier point. Un autre point qui aura sûrement une influence pour la suite, eh bien, c'est que nous sommes devant le premier document du Concile. Et alors, de ce point de vue-là, Sacrosanctum Concilium va, pourrait-on dire, imposer un style à l'ensemble des documents du Concile. Vous voyez bien, en général, un texte conciliaire, c'était le cas au Concile de Trente, eh bien, il procède par des définitions, des anathèmes, des règles, des normes à donner. Autrement dit, c'est d'en arriver à des ordonnances normatives, assez brèves en général, et alors qui conduisent éventuellement à la thème, qu'il soit à la thème si on ne fait pas ceci ou on ne fait pas cela. Arrive aussi ceci, que ce texte en général, mais souvent il donne de la théologie, et la théologie dont on se servait, c'était la théologie scolastique, c'était le développement à ce niveau-là. Or, on est tout d'un coup devant un style où de fait, ce qui vient au premier plan, ce n'est pas de donner des définitions, mais, on pourrait dire, par-delà une approche juridique ou encore métaphysique, abstraite, eh bien, ce qui est du domaine, pourrait-on dire, d'un langage pastoral, et on pourrait dire qui en appelle à l'intériorité et à l'engagement personnel. Cela va marquer tous les textes distingués, les textes de Vatican II par rapport, eh bien, si vous allez voir la Concile de Trente, ou encore si vous regardez les textes de Vatican I. Donc, voilà pour la première partie, il nous reste un quart d'heure. On a un programme. Encore faut-il le mettre en œuvre. Et l'année, donc, des 67, je crois, eh bien, Paul VI avait constitué un conseil, un concilium, pour revoir, eh bien, tous les rites de la messe et ensuite, eh bien, de la liturgie. Et c'est la feuille que vous avez là et qui vous donne une idée, au moins, de l'ampleur du travail qui a été accompli sur une dizaine d'années. Au moins 44 évêques et au moins 200 experts qui ont travaillé, mais indépendamment de cela, indépendamment combien, dans les API, des gens que j'ai connus, ça, que les traductions trouvées, enfin ne serait-ce que les lectures, par exemple, pour qui nous viennent de patristiques et tout, on est devant vraiment une entreprise impressionnante et qui fait que si vous avez eu, on pourrait dire, le corpus, le codex du Concile de Trente, qui de fait était une façon de simplifier, mais tout simplement de mettre ensemble une tradition, vous avez tout d'un coup une nouvelle proposition pour l'ensemble, aussi bien les sacrements, aussi bien le bréviaire, aussi bien le calendrier liturgique, et qui va avancer donc progressivement. Derrière cela, on voit qu'il y a eu deux principes qui ont joué, très probablement, je n'étais pas de ces commissions. Hein. D'abord, l'idée d'un ressourcement, que la liturgie revienne donc à ses sources, patristiques entre autres, ou encore là où tradition orientale et occidentale eh bien, se conjoignent. Donc, cet aspect-là. Et l'autre aspect qui était aussi un autre élément moteur, c'est celui-là. C'est d'en arriver, une dimension pastorale, d'en arriver, autrement dit, à une participation active des fidèles, et donc d'avoir des rites simplifiés, hein, des rites, enfin, on n'a pas à les expliquer, mais qui, en un sens, parlent d'eux-mêmes, hein, et aident à entrer dans le mystère. Donc, vous avez donc dégagé de beaucoup d'éléments, la liturgie de beaucoup d'éléments, qu'on pourrait dire superfétatoires, hein, avec le temps, hein, qu'elle a une certaine pureté, qu'elle parle, mais à partir précisément eh bien, en se ressourçant donc au passé. Bon, tout ça s'est fait sur une dizaine d'années. Je prends par exemple uniquement le missel romain. Dans le décret, c'est là qu'on voit, dans Sacrosanctum Concilium, on garde le latin hein, pour au moins la prière eucharistique, le canon. Hein. Ça, c'était intangible. Au moins cela. Mais on voit que du moment où on se mettait à penser de même le côté pastoral, il y avait, ça devenait un obstacle pratiquement insurmontable pour pouvoir hein, que le peuple chrétien puisse participer. Donc, vous avez eu dès 69, bah, le missel au moins francophone était déjà en français. Même chose aussi. Ça n'était pas dit par le Concile, mais participation active des fidèles eh bien, impliquait précisément que le prêtre se soit tourné vers les fidèles. Donc, vous avez donc à ce moment-là, avec déjà donc, en 1970, des modifications profondes dans la manière, la sensibilité, la manière de voir les choses. Et alors, ça s'est poursuivi, vous regarderez, parce que pour chacun des sacrements, et des fois, même pour passer du latin au français, il a fallu, vous regardez le nombre d'années, des fois, le temps qu'il a fallu, parce qu'il y avait des discussions hein, sur les options pastorales, donc à prendre. Une remarque, parce que c'est bon, hein, ça aide de voir qu'on est humain. Hein, lorsque le 6 hein, hein, a institué cette commission, il fallait bien qu'elle trouve un lieu où travailler. Hein. Et le cardinal Cicognani, qui était responsable de la congrégation des rites, a dit hein, où vous voulez, mais pas ici à la congrégation des rites. C'est clair. C'est bon de dire cela. Et alors, vous avez tout le bréviaire qui était sur une dizaine d'années, comme ça, hein, qui était donc au niveau des lectures, tout le lectionnaire qui a été refait. Donc, vous avez. Donc, la messe a changé de visage pratiquement déjà en 70. Hein, et alors, et avec les événements qui ont suivi. Voilà pour. Alors, donc, ceux-là, ce sont tous des textes hein, qui ont été. Finalement, au terme hein, de libération et tout, ont été signés, hein, approuvés par Paul VI. Donc, vous êtes là devant une mise en œuvre de la Constitution, hein, et c'est ce qu'on appelle le missel de Paul VI, et tout cela. Alors, bien entendu, on arrive au dernier point, la réception. Bon, il va sans dire que la réception, hein, parce que la réception, concrètement, ce qui touchait les gens, ce n'était pas tellement le texte que je vous ai lu, la Constitution, hein, c'était les rituels qui nous arrivaient. Hein. Eh bien, elle est sûrement passée par des hauts et des bas. Il y a eu de l'enthousiasme. Mais cet enthousiasme a sûrement côtoyé beaucoup de dépaysement, hein, de perplexité des autres. Hein, hein. Et alors, à se demander si, eh bien, ça n'avait pas été trop vite. On me comptait, par exemple, seulement, je n'étais pas là, hein, qu'à un moment donné, dans les 72, je ne sais pas trop, le père, on a le préfet d'église ici, mon ami, mais voilà, eh bien, il fallait passer à Vatican II. Hein. Alors, si vous avez déjà vu des photos de l'ancienne église, avant, avec tout de même le maître-autel, le tabernacle, les statues et tout, mais tout cela est parti à la brouette, quoi. Hein? Parce qu'il fallait mettre notre mur des lamentations qui est là, qui est beau, mais une sobriété, les images, les photos, les statues, hein? L'orgue, maintenant c'est la guitare. Vous voyez bien, pour beaucoup de gens, hein? Il y a eu un moment, on peut se demander si ça ne s'est pas fait trop vite. Hein? Hein? Et en laissant tout de même beaucoup de gens sans l'avoir reconnaître. Même les mots changeaient. Alors, bon, hein? En même temps, hein, je dis cela, hein, il y a eu aussi, hein, dès ces années-là, dès les années 70, hein, pour plusieurs, eh bien, cette messe qu'on nous imposait a été jugée comme hérétique. Hérétique. Hein. J'ai des gens que j'ai connus qui ont essayé de me prouver qu'elle était hérétique. Hein. Et alors, c'était, donc, la messe était en 70. C'est en 71 que Mgr Lefebvre fondait son séminaire donc, à Écône. Hein? Et vous voyez que l'histoire, de ce point de vue-là, de la réception de Vatican II, malgré toute sa fécondité, aurait été vraiment une aventure douloureuse. Et elle l'est encore. Hein? Donc, une déchirure. Et peut-être moins en Belgique ici, mais sûrement en France, dans d'autres pays, une déchirure, même à l'intérieur de familles, quoi, hein, selon les allégeances et selon les sensibilités liturgiques. Donc, en 88, il y avait l'excommunication de Mgr Lefebvre et des évêques qu'il ordonnait sans avoir la permission de Rome. Quelques mois après, sortait donc un motu proprio de Jean-Paul II et qui de faire essayait tout de même de faire que ceux qui étaient attachés, hein, à la liturgie ancienne, je veux dire, hein, puissent même tout de même trouver place dans l'Église. Hein. Autrement dit, il n'était pas nécessaire. On pouvait fort bien être de cette ligne, attaché au rite ancien, tout en restant catholique. Il faut bien se dire, eh bien, en même temps, et de la part de part et d'autre, même moi, par rapport souvent à l'aversion, parfois, hein, me sens tout de même, quoi, ils ne sont pas d'église, quoi, ils ne suivent pas Vatican II, on parle de jugement, quoi, hein, voilà, c'était une histoire, en même temps, difficile. Alors, est arrivé, donc, en 88, donc, ce motu proprio, vous avez eu, entre autres, quelques monastères qui tournaient le temps, hein, du rite de Pie V étaient fidèles à l'Église. Et alors, en 98, alors qu'il était cardinal, voilà, hein, Ratzinger, il est allé de quelques réflexions sur le sujet. Hein, et alors, il distinguait, alors, parce qu'il dit, hein, les normes fondamentales, autrement dit, les premiers numéros de... C'est pour ça qu'il faut bien distinguer les premiers numéros de la Constitution elle-même, qui donne les normes fondamentales, eh bien, cela doit être à l'arrière-plan de tout mouvement de réforme liturgique, quelle que soit la sensibilité que l'on a. Bien entendu, la participation active, elle peut être amenée à une définition plus ou moins, hein, théologique, parce qu'il reconnaît bien que la messe, elle est privée, hein, hein. Bon, elle n'est pas participative, hein, dans la liturgie de Pie V. Et pourtant, enfin, elle est la participation du corps mystique. Voilà. Mais enfin, disons, comme tel, voilà, d'avoir pour norme, eh bien, les normes fondamentales. Donc, qui sont là, et ça, c'est le concile lui-même. Premier point. Deuxième, eh bien que Paul VI a ordonné une réforme des livres liturgiques, hein, mais il n'a jamais interdit, hein, l'ancien rite. Autrement dit, le rite de Pissin n'a jamais été abrogé tant tel. Donc, il peut y avoir des aversions de part et d'autre, hein, et qui viennent aussi d'attitudes spirituelles différentes. Alors, il faisait remarquer des choses. On voit que malgré tout, il est sensible à donner sa place, hein, à l'autre rite. Hein. Il est bon pour nous, hein, des éléments qu'il voit lui-même, dans certaines façons, hein, bon, dans les 30, 20 ans, qui ont suivi le concile, hein, de faire trop souvent de la messe davantage, eh bien, une auto-célébration que la célébration du Christ. Hein, hein, ou encore de négliger l'aspect sacrificiel de la messe, eh bien, pour ramener le mystère lui-même, hein, à une, comme il le dit, une créativité un peu sauvage. Hein, hein. Ou encore d'en rester à la dimension communautaire, hein, sans, comme si de fait la célébration était confiée au pouvoir de l'Assemblée. En gros, hein, ce qu'il reprocherait, enfin, ce qu'il faut corriger, ce qu'il faut au moins moduler du côté de notre application, nous, de la liturgie, c'est tout de même un certain sens du mystère, dirait-il, de l'adoration, du sacré, ou encore une autre dimension à laquelle il est très sensible, je me rappelle d'un livre qu'il a écrit sur la liturgie, la dimension cosmique, hein, de la liturgie elle-même. Voilà, donc il était là seulement à dire que quoi qu'il en soit, l'élément qui compte, c'est de qui que l'on soit, de se référer aux normes pratiques, je pense, numéro 21 à 32, hein, de la Constitution, sur laquelle on ne peut pas passer. En 98, il est bon, hein, alors, 9 ans plus tard, sortait de sa part un motu proprio, où il prenait une décision. Hein, il est bien dit, hein, nous décidons. Et la décision, elle est la suivante, que j'ai mis au tableau là, hein, c'est que d'une part, il y a une forme ordinaire et il y a une forme extraordinaire d'un même rite romain. Hein. Donc, la forme ordinaire, c'est notre liturgie de Paul VI, hein, et la forme extraordinaire d'une même, comme dit l'ex orandi, loi de la prière, hein, eh bien, c'est la liturgie, peut-on dire, de Pissin. Et alors, qui est à honorer, dit-il, à raison de son usage véritable et antique. Donc, autrement dit, nous serions devant deux mises en œuvre d'un même rite. Voilà où nous en sommes. Voilà, autrement dit, et après ça, il y a quelques mois, il a sorti encore toute la congrégation Ecclesia Dei, donc de congrégation de la foi, et bien encore un nouveau, une instruction, et où on voit, on arrive à ceci, retenons en tout cas, il y a le rite de Paul VI dont j'ai parlé, par ailleurs, et bien, il y a le rite en tous les domaines, aussi bien pour la célébration du Triduum Pascal, aussi bien pour la consécration de Nervec, aussi bien, eh bien, pour parler du sacrement de l'extrême onction plutôt, hein, eh bien, sauf quelques faits peut-être qu'on pourrait ajouter, hein, le rite de Pissin reste intact pour la deuxième forme elle-même, étant, hein, vénérable et digne donc de respect. La seule chose qui est demandée, et je vous lis, c'est ceci, hein, les fidèles qui demandent la célébration de la forme extraordinaire ne doivent jamais venir en aide ou appartenir à des groupes, hein, soit qui nient la validité ou la légitimité, parce que, hein, non seulement, est-ce que la messe que nous avons, est-ce qu'elle est valide ou encore est-ce qu'elle est, hein, légitime, la légitimité de la Sainte Messe ou des sacrements selon la forme ordinaire. Premier point. La deuxième, qui ne s'oppose pas au pontife romain comme pasteur suprême de l'Église universelle. On voit bien qu'il y a beaucoup d'autres considérants qui entrent en ligne de compte dans le moment, hein, par rapport au clivage ou division dans l'Église. Hein. Je voyais tout à l'heure encore sur Zélie que là, eh bien, le directeur, je pense, de la communauté Pidis, donc de France, a décidé, autrement dit, de faire dire 1000 messes en expiation pour, eh bien, ce crime ignoble qui est tout de même la réunion d'assises qui va avoir lieu. Hein? Voilà. Donc, on voit qu'il y a d'autres points qui entraînent le ton. Hein? Il y a tout de même la position, autrement dit, à Nostra Aetate. Il y a la position, donc, à la collégialité épiscopale. Mais de soi, donc, pour retenir cela, donc tout n'est pas réglé, mais on voit de laisser la possibilité pour qui le veut, qui s'y trouve bien, hein, eh bien, de suivre, indépendamment de ces questions-là, hein, qui viennent s'ajouter. Hein. On dit quelqu'un pourrait être un bon catholique romain, hein, pensant comme le pape, tout en étant donc fidèle là. On se trouve malgré tout, hein, devant, je dirais, la réception, elle est tout de même marquée par une fracture, qu'on le veuille ou non. Hein? Et il faut la vivre le mieux possible. J'en reste là puisque le temps est passé.